Sinbad le marin, un conte des mille et une nuits. Réalisation Christophe Hoquet, à découvrir sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
Vous écoutez France Culture, il est 16h et c'est l'heure de retrouver la science CQFD avec vous, Natacha Triot. Bonjour.
Bonjour Zoé.
Alors, quel est votre sujet du jour ?
Aujourd'hui, on parle de pollution orbitale et de lancement de satellites.
Merveilleux, passionnant.
Merci, bon après-midi.
Vous aussi.
La science CQFD, Natacha Triot.
En 2023, plus de 2400 satellites ont été placés en orbite et ce record devrait être dépassé en 2024. Avec cette frénésie de lancement, l'encombrement des orbites est en passe de devenir un problème majeur. Quels en sont les risques ? Actuellement, la masse de matériel en orbite s'élève à plus de 13 000 tonnes. En 2030, il y aurait près de 60 000 satellites autour de notre planète. Même si on arrêtait dès à présent les lancements, ce qui n'est pas à l'ordre du jour, on aurait tout de même un problème d'augmentation du nombre de débris. Les collisions entre objets déjà en orbite pourraient s'emballer. Tout le monde est d'accord sur la nécessité de ce nettoyage, ce n'est pas une idée neuve, elle a déjà 20 ans, mais elle est difficile à mettre en œuvre. Le nombre de lancements de satellites a-t-il atteint un seuil critique ? Pollution orbitale, espace disque saturé. Christophe Bonal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'Académie de l'air et de l'espace, expert senior système chez Maya Space et l'auteur de Pollution spatiale, l'état d'urgence, paru en 2016 aux éditions Belin. Et Thiago Soares, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur et ingénieur en chef du programme Clean Space de l'Agence spatiale européenne. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez à toute heure en podcast. Alors cette émission n'est plus animée sur X, ex-Twitter. Donc je vous invite à nous rejoindre sur Blue Sky. Je ferai cette annonce jusqu'au 20 janvier. Le déménagement se poursuit. C'est sur notre compte @CQFD. Vous retrouverez toutes nos sources et toutes nos ressources. Alors dans quelle mesure les débris spatiaux sont-ils une menace pour l'exploration spatiale? Comment traiter la question de l'encombrement des orbites et comment faire évoluer rapidement les standards des pratiques spatiales des agences et des industries? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais d'abord, à quel point le nombre de déchets spatiaux va-t-il augmenter? La question est déjà posée en 1978, c'est notre archive du jour.
L'espace est vaste et vous le rappeliez simplement, quand il y aura, je ne sais pas, 50 000 satellites, est-ce que ce sera facile de les commander, de les téléguider, de recevoir leurs données, de les contrôler, de les maîtriser ?
D'abord, généralement, quand un satellite est en orbite, les satellites modernes ont souvent des dispositifs dits de maintien d'orbite, c'est-à-dire qu'on les maintient sur une orbite déterminée de façon active, c'est-à-dire qu'on empêche la dégradation aléatoire des orbites. Mais je crois que le problème ne se pose pas en ces termes. On a lancé énormément de satellites, et souvent des tout petits, au début de l'ère spatiale, et maintenant on en lance de moins en moins en réalité, parce qu'ils durent plus longtemps. Par conséquent, j'ai l'impression que l'encombrement actuel assez vaste, assez considérable, ne va pas augmenter très sensiblement.
Mais il y a les débris, il y en a parlé de poubelles de l'espace.
Alors effectivement, il y a des satellites qui durent très longtemps, dont les orbites ne rentreront dans l'atmosphère que dans peut-être 300 ou 400 ans ou 1000 ans. Alors effectivement, ça va s'accumuler pendant un bon moment.
La voix de Pierre Morel, directeur général du CNES, dans les actus de France Inter en 1978, Christophe Bonal. On entendait dans cette archive, cet encombrement ne devrait pas augmenter très sensiblement à l'avenir.
Oh, je ne lui jette pas la pierre, parce qu'en 78, personne ne voyait venir ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'espace .4, le New Space, et avec l'emballement terrible qu'on a observé. Pour vous donner une idée, en 2000, il y avait à peu près 300 satellites actifs. En 2010, il y en avait un petit millier. Aujourd'hui, il y en a 10 000. C'est vraiment une augmentation. Et comme vous le disiez dans l'intro, il peut y en avoir, on s'attend à en avoir 60 000, 80 000, 100 000 d'ici 2030. Suivant les hypothèses. Et ça, c'est dû notamment à ce qu'on appelle les méga-constellations, des constellations, c'est-à-dire des réseaux de satellites travaillant ensemble, satellites pas forcément très gros, typiquement, ils peuvent faire 250 ou 400 kilos, pas très haut, généralement placé vers 500 ou 600 km d'altitude, mais où le principe, c'est de créer une coque autour de la Terre, donc il en faut plein. Et c'est là où une constellation comme Starlink, par exemple, aujourd'hui, ils en ont déjà 7000, et ils ont une autorisation pour monter à 42 000. Et ça, c'est clair que Pierre Morel ne l'avait pas anticipé, je le reconnais, c'est...
Thiago Suarez, votre réaction, vous aussi, à l'écoute de cette archive?
Non, c'est tout à fait d'accord avec Christophe. Je pense que ce serait impossible de prévoir le rythme et la croissance, le rythme de croissance qu'on voit au niveau des lancements et des objets qui sont mis en orbite aujourd'hui par rapport à l'époque. Et même par rapport à il y a 10 ans ou 5 ans, je pense que dans les dernières 5 ans, il y avait vraiment une révolution que Christophe a mentionnée dans son intervention. Qui a à voir avec ces constellations, qui amène aussi à une nouvelle porte, on dirait, pour l'industrie spatiale, que c'est vraiment la commercialisation de l'exploration spatiale. Et dans ce sens, on voit une énorme croissance dans les dernières 3 ans, où on a lancé plus de satellites que pendant tout l'âge spatial, donc pendant tout 50 ou 60 ans auparavant. Donc il y a clairement un changement de paradigme et je pense que ça se réfléchit sur l'état des orbites et l'encombrement des orbites.
On entendait également dans cette archive quelques termes un peu techniques, Christophe Bonnal. Maintenir un satellite sur une orbite, déjà peut-être qu'on peut replacer, enfin, pour bien comprendre cet état des lieux de l'encombrement orbital, où sont envoyés nos satellites?
Oui, c'est une très bonne question. On a à peu près 3 grandes zones dans lesquelles on a coutume d'envoyer nos satellites. Il y a tout ce qu'on appelle les orbites basses, qui peu ou prou vont jusqu'à 2000 km d'altitude au-dessus de la surface de la Terre. Okay. Il y a les orbites moyennes qui sont très utilisées pour tous les satellites de navigation. Donc vous les connaissez, vous les avez dans vos smartphones, c'est les Galileo, GPS, GLONASS, et ça c'est vers les 20 000, 22 000 km d'altitude. Et enfin il y a la fameuse orbite géostationnaire qui, comme tout un chacun le sait, se trouve à 35 786 km au-dessus de l'équateur et sur laquelle on concentre énormément de satellites, de gros satellites de télécommunication. Et enfin, le problème dont on parle aujourd'hui, fondamentalement, quand on parle de pollution de l'espace, c'est en orbite basse.
Ouais,
les deux autres familles d'orbites posent beaucoup moins de problèmes.
L'orbite basse, Thiago Suarez, c'est là d'ailleurs où se trouvent les stations spatiales, hein, l'ISS et Tiangong, c'est là où ça coince.
C'est carrément là où il y a la plus grande concentration, c'est là aussi où il y a une plus facile accès pour le lancement de satellites, par exemple à bas coût. Et dans ce sens, il y a un problème qui commence à s'accumuler, surtout dans des orbites autour de 600 à 800 km d'altitude, où on a énormément de satellites qui étaient lancés dans le passé et qui, petit à petit, ont eu quelques fragmentations qui ont accumulé des débris dans ces orbites et ont fait augmenter le risque de futures collisions et futures explosions. Il y a aussi eu des tests missiles dans le passé dans ces orbites de destruction de satellites pendant qu'on prenait pas ces sujets à cœur et qu'on n'avait pas encore mis en place toutes les règles qu'on a aujourd'hui qui contribuent aussi pour cette dégradation de ces orbites.
On verra en effet plutôt en deuxième partie d'émission comment tout ça est réglementé, mais Christophe Bonnal, pour reparler en effet de cette dépendance à ces technologies, 1957 quand même Spoutnik, le premier satellite artificiel depuis, comme on le dit depuis quelques minutes, leur nombre ne cesse d'augmenter, mais aujourd'hui nous sommes complètement dépendants de ces technologies, on pourrait ne plus s'en passer.
C'est absolument fondamental, hein. Les satellites, alors on a coutume de dire que chaque personne se sert en environ 45 satellites par jour, le plus souvent sans le savoir, hein, je vous regardez la météo, vous regardez un match de foot à l'autre bout du monde, vous regardez, enfin, vous avez besoin, c'est un besoin stratégique, hein, au niveau des satellites fondamentaux pour notamment tout ce qui est environnement. Hein. Ça avait été souligné lors de la COP 21 où on disait la connaissance de l'environnement de la Terre correspond à peu près à 50 paramètres. Hein, des paramètres, c'est quoi? C'est la température de l'eau, la vitesse des vents, le taux de méthane ou des trucs comme ça. Sur ces 50 paramètres, il y en a 29 qui ne sont accessibles que depuis l'espace. Si vous voulez connaître la température d'un océan, vous n'allez pas planter un thermomètre tous les 10 mètres. Il faut forcément passer par l'espace. Donc ça, l'espace est fondamental pour tout ce qui est environnemental. L'espace est fondamental, après, pour tout ce qui est scientifique. Un scientifique, vous êtes en orbite, vous regardez vers le haut, vous regardez vers le bas, vous comprenez, vous faites des progrès au niveau planétologie et autres. Et troisièmement, l'espace est fondamental pour mettre en contact les humains. Donc, que ce soit pour les satellites de télécommunication, à nouveau, on parlait des satellites de navigation, avec toutes les applications associées. Vous, par exemple, personne ne connaît les satellites Cospas Sarsat. Je crois qu'ils sont trois petits satellites qui tournent au-dessus de nos têtes et qui servent quand il y a des problèmes. Par exemple, je sais pas, vous avez un naufrage au milieu de l'Atlantique, vous appuyez sur la balise et vous êtes repéré par triangulation par ces trois satellites qui envoient les secours. À ce jour, ce système-là a sauvé 40 000 vies. Voilà, bon, c'est le genre de quotidien du spatial dont personne n'entend jamais parler.
Thiago Suarez, on ne trouve pas que des satellites hein, sur ces orbites. C'est aussi le problème grandissant des débris spatiaux. Et l'ESA, d'ailleurs, a proposé un catalogue de tous ces débris.
Oui, bien sûr. Il y a aujourd'hui, avec les derniers lancements, ça a changé la tendance, mais on avait même plus de débris en orbite récemment que de satellites actifs. Ça, c'est les débris qu'on arrive à cataloguer. Sur le catalogue, je pense qu'aujourd'hui, on a presque 36 000 débris catalogués qui ont quotidiennement et qu'on essaye de être sûr que ça va pas impacter un des satellites opérationnels. Alors ces débris qui sont catalogués, c'est quand même des débris qui font plus de 7-8 cm, donc ça veut dire que c'est une petite partie de tous les débris dangereux qui sont sur orbite et qui peuvent quand même ramener à la fin de vie, à la fin des opérations d'un satellite. Aujourd'hui, on pense que tous les débris en orbite basse qui ont plus de 1 cm, dans l'événement d'une collision, ils auraient une énergie équivalente parce qu'ils voyagent très rapidement dans l'espace. Une collision, ça se passerait presque à 14 km par seconde. Donc, vous vous rendez compte que même un petit débris d'un centimètre aurait l'énergie équivalente d'une grenade peut vraiment causer une fragmentation et sûrement la fin de vie et la fin d'opération d'un satellite. Donc, comme Christophe a bien remarqué, ces satellites sont essentiels pour plein de fonctions sur la Terre. On voit aussi une augmentation et je pense que dans les années qui arrivent, ça va encore augmenter notre dépendance des activités spatiales. Tous ces débris qu'on n'arrive pas à cataloguer et qu'on n'arrive pas à suivre sont, à mon avis, vraiment le grand danger qu'on a aujourd'hui et qui est un danger invisible pour les opérateurs de satellites.
Oui,
et là,
ça.
On parle de plus de 1 million de débris de cette taille. C'est une estimation, mais c'est à peu près ce qu'on a estimé.
Et 1 million, en effet, comme vous dites, 1 million de débris hein, de 1 à 10 cm qui sont dangereux, non traçables, on ne peut pas les voir, on ne peut pas les éviter, et donc on ne peut pas protéger nos satellites contre ces débris, Christophe Bonnal.
Absolument, on considère 1 cm, je crois, c'est, si je me souviens bien, c'est une énergie de 1 mégajoule, c'est-à-dire c'est l'équivalent de ma Renault Laguna lancée à 130 km à l'heure. Donc si vous voulez, quand ça rentre dans un de nos petits satellites tout fragiles qu'il ne faut surtout pas toucher, bon, ça fait des dégâts terribles. Hein. Donc, comme le disait Thiago, bon, 1 cm, c'est très probablement ce qu'on appelle un satellite, un satellite killer, hein, un tueur de satellites. Voilà. Donc, et malheureusement, pour le moment, on ne les voit pas. Comme dit Thiago, on catalogue les débris de 7, 8, 10 centimètres avec des télescopes, des radars. On en parlera peut-être après. Mais par contre, en dessous de ça, ben c'est trop petit. Hein, on n'arrive pas à avoir une balle de ping-pong à 1000 km de distance. On n'arrive pas encore à la voir, quoi.
Et pour les débris les plus gros, la Station Spatiale Internationale doit régulièrement faire des manœuvres pour éviter justement ces débris. Quels sont les autres risques, les conséquences de cette surcharge orbitale ? Restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, le nombre de lancements de satellites a-t-il atteint un point de bascule ? C'est la question que nous posons à nos deux invités du jour, Christophe Bonal et Thiago Soares. On vient d'évoquer les origines de cette surcharge orbitale avec entre autres la méga constellation de satellites Starlink d'Elon Musk qui à terme pourrait être composée de plus de 42 000 satellites. Ça ne devrait pas aller en s'améliorant car d'autres acteurs privés comme Amazon ou étatiques comme la Chine ou l'Union Européenne souhaitent également développer leur propre méga constellation satellitaire. En 1978, deux astrophysiciens de la NASA, Donald Kessler et Burton Courpalet, publient un article avec un modèle mathématique. Christophe Bonal, c'est le fameux syndrome de Kessler. Que prédit ce modèle ?
Alors, malheureusement, il faut un tout petit peu d'explication avant, qui consiste à rappeler que quand on est en orbite basse, mettons jusqu'à 1500 km d'altitude, il y a encore un tout petit peu d'atmosphère. Pas beaucoup, hein. Elle devient de plus en plus ténue au fur et à mesure qu'on monte, mais il y a quand même un petit peu, il y a quelques atomes comme ça qui se battent en duel. Et ça veut dire que quand on a un objet qui se déplace dans cette atmosphère très ténue, cet objet subit une pression, c'est ce qu'on appelle la pression dynamique, hein, c'est la pression qu'ils exercent sur votre main quand vous passez la main par la fenêtre de la voiture, vous sentez une pression. Voilà, donc le satellite, le débris, tout objet jusqu'à 1500 km d'altitude subit cette pression. Or, on montre que quand on subit cette pression, on freine, et on montre que, en mécanique spatiale, quand on freine, on descend. Donc, ça veut dire que tout descend, mais plus ou moins vite. Alors, en plus, ça descend. Donc, tout objet jusqu'à 2000 km est engagé dans une spirale qui descend vers la Terre et qui va d'ailleurs de plus en plus vite, parce que plus ça descend, plus il y a d'atmosphère, plus ça freine, plus, etc., etc. Voilà. Donc, ça veut dire, on a une aide très forte dans notre problème de débris, grâce à l'atmosphère, qui permet de nettoyer naturellement. Alors ça peut prendre un certain temps, par exemple à 600 km d'altitude, ça prendra je sais pas, peut-être 15 ans, ça dépend de la forme et de la surface et de la masse de l'objet, ça peut prendre 15 ans avant d'arriver à s'en débarrasser. À 800 km, ça met 200 ans. À 1000 km, ça met 1000 ans. Etc. Donc, voilà. Et donc, le problème, pour revenir à notre ami Don Kessler, le problème, il a bien imaginé que quand on envoie plus d'objets qu'il n'y a de nettoyage atmosphérique, finalement, ben, on a un bilan qui est négatif vis-à-vis des orbites. Et là, ce qu'il a théorisé, qui est plus grave, si vous voulez, c'est qu'il imagine qu'on est dans un cas totalement idéal, mauvais pour le business, hein, mais où on arrête tout lancement. On arrête toute activité spatiale, voilà, fini. Plus rien, on n'a plus de lancement, on n'a plus de fusée, on n'a plus de satellite, on n'envoie plus rien et autres. Malheureusement, il y a ce qui est encore en orbite, hein, vous avez signalé dans le chapeau au début. Et donc, quand les collisions entre ce qui est déjà en orbite dépassent le nettoyage naturel de l'atmosphère, là, ben, on a un emballement, on a une réaction en chaîne, c'est-à-dire on est là, les bras croisés, et on regarde et on voit le nombre d'objets qui augmentent de façon incontrôlée. C'est ça qu'on appelle le syndrome de Kessler. Et malheureusement, on pense qu'on l'a accroché entre 750 et 900 km d'altitude aujourd'hui.
Aujourd'hui, à l'heure actuelle, vous dites qu'on est dans un état critique d'encombrement d'orbite.
On a deux grandes zones orbitales. Premièrement, les zones au-dessus de 650-700 km qui sont définies justement par des durées extrêmement élevées de nettoyage. Et où là, finalement, ben, ce qui est là-haut, il reste. Hein, c'est ce que Thiago citait dans les orbites vers 800, 900, 1000 km. Les anciens satellites qui avaient été lancés pendant la guerre froide et autres, ben, ils y sont encore. Et ils font des petits, hein, parce qu'ils se rencontrent. Et donc là, cette zone au-dessus de 750 km est dominée par les débris. Il y a des endroits, par exemple à 800 km, qui était notre orbite fétiche, la héliosynchrone 807 km traditionnelle d'observation de la Terre, etc. Aujourd'hui, il y a 1000 fois plus de débris que de satellites dans cette zone-là. Ça, c'est la première zone. La deuxième zone, c'est en dessous de 600 km à peu près, parce que là, ben on est aidé par le nettoyage naturel, ce qui fait que là, c'est pas une région de débris du tout. Le problème, c'est vraiment de l'encombrement de satellites actifs. C'est-à-dire, les opérateurs ont bien compris, oula, faut pas monter trop haut, hein, on aura des problèmes de syndrome de Kessler et autres. Donc, tous les lancements maintenant se font en dessous de 600 km et on commence à avoir une vraie zone de congestion. Donc, si vous voulez, vraiment deux zones. Une zone d'encombrement de débris au-dessus de 800 km, mettons, et une zone de congestion de satellites actifs en dessous de 600.
Thiago, ça veut dire qu'à terme, ce processus rendrait impossible la mise en orbite de nouveaux satellites, mais aussi la simple traversée de cette orbite ?
Alors, c'est pas qu'aujourd'hui, on n'est pas capable d'opérer des satellites dans ces orbites. C'est comme Christophe vient de dire, il y a beaucoup de satellites actifs dans ces orbites-là. C'est que on risque, c'est qu'avec la l'effet multiplicatif qui vient avec l'effet Kessler, que un jour on arrive à la situation où on passera plus de temps à éviter les débris, ou bien si on n'arrive même pas à les détecter, que notre mission soit jamais accomplie ou pour tout son temps de vie qui était prévu quand on les conçoit. Et ça, on risque de le voir dans les années, dans 50 ans, 100 ans, où on commence vraiment à voir une multiplication, cet effet multiplicatif commence à être de plus en plus visible pour les opérateurs. Pour le lancement aussi, bien sûr, il y a des conséquences parce que de plus en plus, on a des alertes avant de faire chaque lancement. Des fois, c'est dans des dizaines, voire plus. Ça dépend de l'incertitude qu'on a dans notre lanceur, qui met aussi en risque les lancements et, bien sûr, des fois, peuvent ramener à avoir des délais qui sont critiques pour envoyer des missions, par exemple, interplanétaires ou autres, qui ont des fenêtres de lancement assez limitées. Donc, de plus en plus, on voit les effets, soit pour les satellites, soit pour le lancement.
Je lisais une synthèse qui a été parue, un document de synthèse paru en 2022 par Viasat, une entreprise américaine spécialisée dans les décommunications par satellite, qui publie, je cite, « Si un point de basculement est atteint, l'humanité entière assistera impuissante à la multiplication incontrôlée des déchets spatiaux. Si nous n'intervenons pas à temps, nous risquons de mettre un terme peu glorieux à l'ère spatiale, de piéger l'humanité sur Terre sous une couche de ses propres déchets pendant des siècles, voire des millénaires. » Christophe Bonnel, ça ressemble à un scénario d'apocalypse, ce syndrome Kessler.
C'est une vision apocalyptique, c'est clair. Mais malheureusement, ils n'ont pas complètement tort. Alors la question, c'est plus de savoir au bout de combien de temps. Donc c'est pas une histoire de dizaines d'années pour tomber dans la situation décrite par Viasat. Je vais prendre un exemple. On a un organisme international, interagence, dans lequel Thiago appartient également, qui s'appelle l'IADC, qui est le Interagency Space Debris Coordination Committee. C'est un comité regroupant les 13 agences spatiales internationales capables de faire des débris. Et là-dedans, on a tout le monde. On a la Russie, l'Ukraine, la Chine, l'Inde, etc., les pays européens, bien sûr. Et l'IADC, qui ne travaille que par consensus, a émis un statement, un état des lieux, il y a très peu de temps, je crois que c'était en 2022, Thiago, je crois, disant, mais on est à une situation aujourd'hui telle que, quel que soit ce qu'on peut imaginer comme manœuvre pour réduire les débris à l'avenir, ce sera insuffisant. Il faut aller nettoyer. Et donc si on ne nettoie pas, On regardera la situation diverger. L'ESA a publié deux courbes qui étaient vraiment très frappantes, qui étaient toutes simples, l'évolution du nombre d'objets dans l'espace suivant deux scénarios. Le scénario, projection, on continue comme aujourd'hui. Alors là, inutile de vous dire que ça monte bien, Et puis le scénario donc que j'avais abordé tout à l'heure, disant on ne fait plus rien, plus aucun lancement, plus rien, plus mais la courbe augmente quand même. Et voilà, et ça, si vous voulez, la courbe augmente, c'est une exponentielle. Ce qu'il y a Einstein qui disait, il y a rien qui me fasse plus peur que l'exponentielle. Voilà. Mais il faut se rappeler, alors pour les puristes, que l'exponentielle, elle commence d'abord par être très plate. Donc on a quand même le temps. Les projections qui sont faites, par exemple sur la courbe de l'ESA, on parle déjà de 200 ans. Hein, et bon, donc c'est pas faux ce que dit Viasat. C'est un petit peu exagéré aujourd'hui.
Un peu exagéré aujourd'hui, comme vous dites, au bout de combien de temps? Nous verrons. Thiago Soares, en attendant, ces risques pour le spatial se font déjà ressentir, en tout cas du point de vue des observations astronomiques. On voit que ces myriades de satellites mettent en péril l'observation du ciel par une pollution d'ordre électromagnétique, tant du côté de la pollution lumineuse que des pollutions d'ordre radio.
Oui, c'est vrai. C'est pas juste au niveau de exploration spatiale, on va dire, avec des satellites, mais aussi l'observation de l'espace à partir de la Terre commence à avoir à être problématique. Aujourd'hui, on estime que 30% des images prises par télescope sont affectées par des débris qui passent devant le champ de vue de télescope et du coup ne peuvent pas donner les résultats attendus. Ça c'est aujourd'hui, mais la tendance c'est encore une fois d'augmentation avec toutes ces constellations qui sont prévues, plus les effets de satellites qui ne désorbitent pas ou qui prennent beaucoup de temps à désorbiter. Donc il y a ça, il y a aussi avec l'augmentation des satellites en orbite, plus de pollution électromagnétique au niveau des ondes radio qui vont aussi affecter les observations scientifiques à partir des télescopes terrestres ou des télescopes même en orbite, mais en orbite basse par exemple.
Puis le risque pour en effet pour les observations astronomiques et puis vous nous évoquez également, Christophe Bonnal, les risques au sol.
Et oui, parce que ma fameuse spirale dont je parlais tout à l'heure se termine dans l'atmosphère. Et là, dans l'atmosphère, les objets, alors satellites ou débris, subissent d'abord un grand coup de frein à cause de ma fameuse pression dynamique, qui les disloque, qui les fragmente. Donc on voit d'abord partir les panneaux solaires dans un côté, les antennes, la boîte du satellite qui se casse. Et après, ces éléments fondent, dû à la friction des molécules constitutives de l'air. Et ça peut monter à des très hautes températures, ça monte à 1400, 1600 degrés. Donc ça fond. Ça fond, sauf ce qui ne fond pas. Et malheureusement, on considère qu'il y a à peu près 20% de la masse des satellites, suivant la conception, suivant les matériaux choisis, mais environ 20% de la masse qui survit à la rentrée et qui impacte la surface du globe. Donc ça, c'est quand même assez significatif. Je veux dire, si vous avez un étage supérieur de fusée qui fait 5 tonnes, mais il y a une tonne qui survit à la rentrée. Ça, ces rentrées, elles arrivent très fréquemment. On a à peu près 2 rentrées d'objets, de gros objets, par jour. Et donc ça, c'est quelque chose de significatif. On a un satellite significatif qui rentre une fois par semaine, à peu près. Et donc, 20% de sa masse qui survit à la rentrée. Alors, on a de la chance, on touche du bois. Pour le moment, il n'y a jamais eu de victimes, même jamais eu de blessés. Notamment grâce à la géographie, parce que on a 71% d'océans, 10% de savanes et de forêts et autres, enfin de déserts et autres. Il y a que 3,3% de la surface du globe qui est densément peuplée. Néanmoins, c'est une vraie épée de Damoclès. C'est-à-dire, on a des objets qui peuvent faire une tonne, qui rentrent, on ne sait pas où, on ne sait pas quand. Et on n'a vraiment aucun moyen de prédire quand. Alors c'est tous les exercices qu'on fait entre les agences, c'est à celui qui fera la meilleure prédiction, mais généralement elles sont quand même très mauvaises. Il faut savoir qu'une erreur de 2 minutes, c'est la longueur de la France. Donc on n'en est pas encore au stade où on va dire qu'il faut évacuer Paris, parce que on dira oui, il faut évacuer Paris, je suis sûr de mon coup, à 60 000 kilomètres près. Là c'est pas sérieux. Et ça, c'est un vrai danger, parce que ça veut dire quand on lance des trucs, qu'on sait que ça va retomber, potentiellement n'importe comment, ça peut tuer quelqu'un. Bon, voilà.
Autre risque récemment pointé du doigt, le risque de pollution chimique atmosphérique. Car par quel mécanisme les débris spatiaux endommagent-ils la chimie de l'atmosphère? Et quels sont les scénarios pour endiguer le problème des débris spatiaux? Restez avec nous.
With my will, I wish I had lived when great genius lived. What I would not have done. Ah!
Inner Space de Baby Guru en direct sur France Culture, car nous parlons de pollution spatiale et de surcharge orbitale. On en parle avec nos deux invités du jour, Christophe Bonal, membre de l'Académie de l'air et de l'espace, expert senior système chez Maya Space, et Thiago Soares, cofondateur et ingénieur en chef du programme Clean Space de l'Agence spatiale européenne. On vient de voir que pour les 10 ans à venir, les projections tapent sur la rentrée d'environ 4000 satellites par an. On a évoqué également le syndrome Kessler, ce scénario catastrophe qui rendrait l'exploration spatiale impossible. La problématique des débris spatiaux est étudiée depuis des décennies, mais de nouveaux phénomènes de pollution liés à l'augmentation du nombre de lancements semblent émerger ces dernières années. C'est ce que l'on voit pour le reportage du jour, et c'est avec vous Bruno Sansini, bonjour.
Bonjour.
Et quels sont les impacts des activités spatiales sur la haute atmosphère? Quelles sont les conséquences des retombées des débris spatiaux pour la chimie de l'atmosphère? Ce sont donc des pollutions qui restent encore peu étudiées.
En effet. Comprendre les effets des activités aérospatiales sur les hautes couches de l'atmosphère est un enjeu pour le secteur. Et comme le disait Thiago Soares tout à l'heure, plus de satellites ont été envoyés sur ces 3 dernières années que sur les 60 qui ont précédé. Loïs Miro est chercheur au CEA et travaille indépendamment sur les questions d'impact environnementaux du secteur spatial. Il modélise les différents flux liés à ces activités et cherche à mettre en évidence les conséquences sur la haute atmosphère. Deux suspects sont dans le viseur, les suies des carburants défusés et les particules métalliques d'aluminium, pouvant toutes les deux avoir des influences sur le climat à des altitudes normalement épargnées des activités humaines. Ces conséquences sont encore difficilement quantifiables, mais tant que le nombre de lancements continuera de croître, les impacts sur la haute atmosphère ne risquent pas de diminuer.
À l'exception de la problématique des débris spatiaux qui a été en fait étudiée depuis des décennies, vraiment depuis les années 70-80, on s'intéresse à cette problématique. Là, on a tout un tas de nouvelles problématiques environnementales dans le secteur spatial qui émergent. Donc on a la problématique de la pollution lumineuse qui émerge principalement à cause du lancement des grandes constellations de satellites. On a aussi donc la problématique des impacts sur la haute atmosphère, des lancements et des rentrées atmosphériques qui en fait avait été très peu étudié à ce jour dans la recherche, mais qui maintenant monte en puissance, justement parce qu'on se pose de plus en plus de questions en voyant la croissance du secteur, notamment à cause des constellations. Et donc finalement, vu que ce sont des sujets qui sont très nouveaux, eh bien il y a eu très peu de thèses qui ont été faites sur le sujet, très peu de travaux de recherche, ce qui a fait que, donc moi quand je me suis intéressé à ce sujet, c'était vraiment le tout début.
Et donc quand on parle de pollution de la haute atmosphère, c'est quel phénomène du processus de lancement et de vie générale des objets dans l'espace qui sont pris en compte et qui interviennent dans cette pollution?
Alors, en fait, pour placer sa charge utile en orbite, une fusée va devoir traverser toutes les couches de l'atmosphère et donc émettre dans les plus hautes couches. Alors que le reste des activités humaines, eh bien, n'émet que dans la couche la plus basse de l'atmosphère, donc qui est la troposphère. Le problème, c'est qu'on s'est aperçu que les émissions dans ces hautes couches de l'atmosphère ont un effet qui est décuplé, puisque chaque composé va rester en suspension beaucoup plus longtemps dans l'atmosphère et donc aura beaucoup plus de temps pour exercer son pouvoir réchauffant ou destructeur d'ozone. Donc ça constitue un premier effet démultiplicateur des émissions des fusées, le fait d'être émis dans les hautes couches de l'atmosphère. Il y a un deuxième effet démultiplicateur qui est que les moteurs de fusées émettent des particules en très grande quantité. Donc ces particules vont rester en suspension longtemps. Par exemple, les suies, qui sont des agrégats d'hydrocarbures imbrûlés, sont émises 1000 fois plus dans un moteur de fusée que dans un moteur d'avion par kilogramme de carburant brûlé. Donc si on compose ces deux effets des multiplicateurs, eh bien on s'aperçoit que, en fait, en ne brûlant qu'un millième de la quantité de carburant de l'aviation mondiale, eh bien les lanceurs serait responsable d'un effet réchauffant sur l'atmosphère de près d'un dixième de cette aviation.
Donc là, vous nous parlez des carburants des fusées à la montée des fusées dans l'espace. Il y a aussi la fin de vie de ces engins qui vont réintégrer l'atmosphère et vont se désintégrer donc dans la haute atmosphère. Ça aussi, ça a un effet de pollution sur cette haute atmosphère?
Effectivement. Alors, lorsqu'on envoie des satellites en orbite basse, ils finissent par retomber dans l'atmosphère, soit naturellement avec la traînée de l'atmosphère, soit parce que on fait une manœuvre volontaire du satellite pour accélérer ce processus dans le but d'éviter l'accumulation d'objets en orbite et justement un peu régler la problématique des débris spatiaux. Sauf que en rentrant dans l'atmosphère, donc ces satellites et étages de lanceurs qui ont servi à les placer en orbite, ils vont se consumer partiellement ou totalement, et émettre des particules métalliques dans les plus hautes couches de l'atmosphère. Donc là, ces émissions, elles se situent vraiment dans la plus haute couche, qui est la mésosphère, qui se situe entre 50 et 85 km d'altitude. Et ces particules métalliques, en fait, vont retomber progressivement dans la couche qui est en dessous, qui est la stratosphère. Et c'est là que se trouve la couche d'ozone. Des chercheurs se sont aperçus qu'il y avait, dans cette stratosphère, des éléments métalliques qui n'avaient rien à faire là, et qui étaient présents dans des ratios cohérents de la composition des alliages des satellites et des lanceurs. Donc pas de doute, les coupables étaient clairement identifiés. Alors le problème, c'est que on ne sait pas encore quel serait l'effet de ces particules, parce que ça n'a pas été quantifié. En revanche, donc les chercheurs ont discuté d'effets possibles, et donc parmi tous ces métaux, on a en particulier l'aluminium, dont les satellites et lanceurs sont composés en très grande quantité, et cet aluminium, il est très réactif avec l'oxygène. Donc il va former des oxydes d'aluminium, et en fait, on sait que cet oxyde d'aluminium, il catalyse, il favorise la réaction de destruction de l'ozone par un gaz qui est présent déjà dans la stratosphère, qui est la chlorine.
Pour étudier cet impact sur l'atmosphère, vous avez des modèles, vous utilisez quels outils pour observer ces changements de l'atmosphère ?
Donc, la méthode de modélisation, c'est la dynamique des systèmes. Donc, c'est une approche qui est utilisée souvent lorsqu'on veut appréhender des systèmes complexes, de manière générale. Et elle est assez célèbre dans le domaine des sciences environnementales, puisque c'est l'approche qui a été utilisée dans l'étude des limites à la croissance de 1972, où ils ont essayé de modéliser le monde en regardant les interactions entre la population humaine, la production industrielle et agricole, les ressources naturelles et la pollution.
Quelles informations on peut tirer justement de ce genre de modélisation ? Est-ce qu'il y a des impacts qui étaient donc négligés ou insoupçonnés qu'on arrive à faire sortir de ce genre de modélisation et qui peuvent aider à mieux comprendre les impacts environnementaux du secteur aérospatial ?
Sans surprise, étant donné que dans les hypothèses d'entrée donc qui déterminent le nombre de satellites qui vont être lancés dans le temps, eh bien je me base sur des annonces, eh bien le nombre de satellites de toute façon va être amené à augmenter, donc le nombre de lancements va être amené à augmenter, et bah, tout cela conduit à une augmentation en fait sur tous les indicateurs environnementaux, que ce soit les débris spatiaux, la pollution lumineuse, l'effet des rentrées atmosphériques, et la même chose pour la quantité émise par les lanceurs.
Merci Bruno Sansini pour ce reportage. Thiago Suarez, pour compléter, prolonger ce qui vient d'être dit, on vient de l'entendre, c'est un problème qui émerge tout juste et sur lequel on n'a pas encore beaucoup d'informations.
Voilà, c'est exactement ça la situation. On a commencé à étudier ce sujet depuis quelques années, mais au début, et comme on a dit, dans les derniers 3 ans, le trafic a augmenté énormément. Quand on a commencé à étudier ce sujet, notre observation, c'était que la quantité de matériaux brûlés dans l'atmosphère qui pourrait causer des problèmes serait, même avec une marge d'incertitude, probablement pas n'aurait pas un impact très, très important. Mais c'est vrai que les conditions ont complètement changé dans les dernières années. Et aujourd'hui, c'est quelque chose auquel il faut vraiment... mettre beaucoup plus d'attention. Alors avant, pendant le reportage, on parlait de la modélisation de cet effet. Il y a aussi besoin, et je pense que c'est là où il nous manque vraiment beaucoup de connaissances, de comprendre quels sont les matériaux, et pas juste les matériaux, mais les dimensions des particules qui sont libérés pendant la rentrée dans des couches de l'atmosphère il faut quand même avoir la notion que c'est des couches de l'atmosphère où la seule activité anthropogène, c'est l'activité spatiale. À partir d'une certaine altitude, il n'y a pas d'autre activité, l'aviation ou autre, qui va avoir un impact sur ces couches. Et du coup, ça rend encore plus difficile de comprendre et de modéliser tous les impacts qu'il y a. Avant, comme j'allais dire, il y avait des mesurements pendant les lancements pour être sûr que les effets dans la couche d'ozone, par exemple, autour de lancement, pour une question de sécurité, dans le sens que si on a un trou dans la couche d'ozone, ça peut avoir un effet aussi sur la population des locales où il y a des lancements. Donc ça, c'était des données qu'on avait, mais sont très locales. Et lorsque là, on commence vraiment à parler d'un effet global, où on a besoin de nouveaux outils, nouveaux mesurements, etc.
Christophe Bonnal, comme on l'a dit, ces effets délétères n'ont pas encore été mesurés, mais ils sont théoriquement possibles.
Oui, tout à fait. Mais Loïs, qui au passage est un ancien de Biaspace, Loïs a tout à fait raison de souligner qu'il faut progressivement, c'est-à-dire il y a un certain nombre de mesures qui sont positives, qu'on a vues, qu'on a bien compris, hein, la notion de les particules de métal qui n'ont rien à faire là, hein, dans les articles de Murphy et autres, bon, ça c'est clair. Par contre, ce qu'on ne sait pas encore, c'est quel est leur effet. Est-ce que on a coutume de dire entre nous qu'on a une certitude là-dedans, c'est qu'on n'en sait rien, quoi. Voilà. Et donc on travaille beaucoup là-dessus. Par exemple, on vient de publier avec Antoinette Haute, qui est notre ingénieur environnement chez MySpace, et moi, on vient de publier justement un article là-dessus, faisant l'état de la balance entre le risque de tuer quelqu'un au sol et le risque de tuer l'atmosphère. Hein, voilà, et appelant un peu à un principe de précaution et puis donnant priorité, si possible, à l'atmosphère. Donc on a fait quelques recommandations en ce sens. Bon, ça vient d'être publié, on attend les réactions. Hein.
Par rapport au volet solution, ce qu'on n'a pas dit, c'est quand même la pollution des orbites qui est principalement le fait de trois pays, les États-Unis, la Russie et la Chine, qui représentent à L3 97,5% des débris spatiaux. Comment, Christophe Bonnal, comment fonctionnent les solutions d'ordre réglementaire?
Au niveau réglementaire, on est très très riche. Parce qu'on travaille sur ces sujets-là depuis, personnellement, je suis dessus, depuis 1987. Les premiers textes étaient sortis en 1995, les standards NASA. Le CNES, on avait sorti un standard en 98. Puis, au niveau international, en 2002, à l'IADC. À l'ONU, en 2007. Puis à ISO, donc International Standardization Organization, je pense que c'était en 2008. Surtout, il y a eu des textes nationaux, notamment la loi spatiale française, qui est fondamentale, parce qu'on était les premiers à avoir une loi sur le sujet, hein, en 2008, appliquée en 2010, oui, tout à fait. Depuis, le Japon en a une également. Voilà, et donc ça, c'est des textes qui sont bien compris, partagés. Je vais prendre, par exemple, ISO. À ISO, les textes ont été non seulement approuvés, mais menés par exemple par des collègues chinois. Chinois, américains, russes, il n'y a absolument aucun problème, tout le monde est bien d'accord là-dessus. Là où le bât blesse, derrière, c'est après quand il faut les appliquer. C'est toujours le truc, on est tous d'accord pour mettre un panneau de limitation à 50 km/h en bas de la rue chez nous, quoi. Mais la nuit, quand il n'y a personne, on ne le respecte pas. Quoi. Point. Voilà. Et c'est toujours le problème.
Thiago Soares, l'objectif c'est donc de faire adopter des normes, ces normes par le plus grand nombre d'opérateurs possible.
Carrément. Je pense que là, j'ai une opinion un peu différente de Christophe, parce que, à mon avis, et après aussi nos simulations, on voit que les règles qui étaient développées au niveau international commencent à être vraiment hors date, on va dire, dans le sens qu'elles ne sont pas adaptées au trafic qu'on a aujourd'hui, et qu'elles n'arriveraient pas à prévenir cette syndrome de Kessler qu'on parle depuis le début de ce programme. Donc je pense qu'il y a quand même une avance à faire, et ce n'est pas facile, parce que bien sûr, quand on a besoin de consensus au niveau international, on sait très bien que c'est pas facile à trouver, d'avoir un standard technique comme l'ISO en place. Ça prend beaucoup de temps lorsque l'environnement change très rapidement dans les dernières années. Donc là-dessous, je pense qu'il y a quand même des pays et des entités qui essaient de faire un travail en avant, comme la France avec la loi des opérations spatiaux, ou l'ESA avec ses standards, où on essaie d'aller au-delà de ce qui est le minimum, on dirait, qu'on est d'accord internationalement. C'est-à-dire, enfin, en disant ça, je voulais quand même dire que Christophe a tout à fait raison, que même avec les règles d'aujourd'hui, qui sont pas suffisantes, on n'a pas une adhésion totale, et il y a toujours de tous les satellites qui devaient faire des opérations de fin de vie dans l'orbite basse, là où c'est le plus critique, il y a quand même à peu près 60% qui le font et les autres 40% qui n'arrivent pas à le faire parce que les satellites ont des problèmes en orbite avant et n'arrivent pas à les implémenter. Ou bien c'est même pas implémenté par conception. Mais je pense que aujourd'hui il faut quand même avoir une vision, à mon avis, plus proactive et ne pas ne pas attendre le consensus global pour aussi avoir des initiatives, je pense régionales ou nationales.
Côté solutions techniques, comment concrètement mettons en place des techniques de nettoyage ? Restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triot.
En direct sur France Culture avec Christophe Bonal et Thiago Suarez, nous parlons de surcharge orbitale et des bouchons des satellites qu'on trouve en orbite basse. On l'a dit, il va être nécessaire de nettoyer les orbites les plus encombrées de manière active. On a une liste de 50 objets de grande taille, environ 9 tonnes, qui a déjà été établie. Mais concrètement, Christophe Bonal, comment on met en place ces techniques de nettoyage qui, en plus, sont des techniques qui sont très coûteuses ?
Si vous voulez, là, il y a plusieurs questions qui se posent. C'est d'abord, techniquement, strictement, comment ferait-on ? Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on saurait le faire. C'est-à-dire, c'est compliqué, il faut avoir un genre de chasseur qui va s'approcher de sa cible, le capturer. Alors bon, il faut capturer le débris, pas mal de techniques qui ont été étudiées, voire même développées, souvent relevant de la pêche, avec des harpons, des grappins, des filets. Bon, une fois qu'on a accroché le débris, ben on le tire ou on le pousse et puis on le fait rentrer dans le sud du Pacifique, là où il ne risque de tuer personne. Donc ça c'est pas mal. On a eu pas mal de démonstrations qui ont été faites au sol, puis même en avion zéro-G et même en orbite. Il y a eu des expériences qui ont été faites. Il y a des programmes qui sont en cours de développement. Donc ça c'est le côté bonne nouvelle. Moins bonne nouvelle, comme vous venez de le dire, ça vaut cher. Donc, qui paye ? Comment faire ? Quelles sont les solutions ? Et là, on étudie beaucoup. On a publié, par exemple, une liste de 5 propositions de financement pour ces activités. Bon, j'ai pas le temps, il nous faudrait 2 heures de plus pour... mais l'une des solutions, c'est de profiter de ce qu'on appelle les services en orbite. Alors, les services en orbite, c'est quoi ? Très rapidement, c'est la camionnette d'Arty qu'on est en train de développer, qui le lundi va chercher un satellite, le mardi va en re-remplir un, le mercredi va en réparer un autre, le jeudi en déplacer, le vendredi en inspecter un autre et tout, et puis pour respecter la réglementation, le dimanche, il se désorbite. Et là, on lui dit, mais quand tu te désorbites, sois sympa, tu récupères le débris qui est juste à côté et tu le fais redescendre. Et là, du coup, avec une méthode comme ça, la chasse, le retrait actif de débris, ce qu'on appelle l'ADR, Active Debris Removal, devient marginal au point de vue des coûts. C'est ce qu'on propose, par exemple, chez MayaSpace. On a ce motto qui est One Up, One Down. Chaque fois qu'on monte un satellite, on va se servir du RAB de performance qu'on avait pour aller chercher un débris à proximité et le redescendre. Donc comme ça, on essaiera d'être clean et neutre là-dessus. Bon, je touche du bois.
Thiago Suarez, à l'ESA aussi, les premières missions de récupération de débris sont en cours d'élaboration.
Tout à fait. Il y a des missions en cours de préparation pour enlever un débris existant. Il y a aussi des missions qui sont en train d'être préparées pour démontrer des capacités pour enlever des satellites qui sont préparés pour ça. Donc ça, c'est une nouveauté, mais il y en a des satellites maintenant qui commencent à intégrer des interfaces pour être capturés mis dans une orbite sûre ou les faire entrer dans l'atmosphère terrestre. Ces missions-là on commence à voir vraiment un grand intérêt au niveau industriel aussi pour ce type de mission. parce que c'est vu aussi, comme Christophe le disait, comme un premier pas vers ce qu'on appelle à l'ESA Circular Economy in Space, donc une économie circulaire où on puisse réutiliser, réparer, avoir une utilisation plus intelligente, je dirais, de toute l'énergie qu'on doit mettre en place pour avoir un objet qui est en orbite, qui est quand même énorme. Vous voyez la taille d'un lanceur par rapport à la taille de satellite qui est mis en orbite. Donc, on voit quand même une bonne dynamique qui commence à se former au niveau industriel et beaucoup d'entreprises essayent d'être exemplaires aussi au niveau d'application des règles et de travailler ensemble vers des solutions.
Thiago Suarez, vous évoquez en effet l'économie circulaire. C'est vrai que depuis le début de l'ère spatiale, on a une culture du jetable, un peu comme les plastiques dans l'océan. En fait, par rapport au projet envisagé à long terme, il faudrait carrément revoir la conception des satellites, que la réutilisation des engins en orbite puisse être une priorité.
Complètement. Les satellites tels qu'ils sont aujourd'hui, ça serait impossible d'implémenter une vision circulaire. Ils sont vraiment conçus pour utilisation unique et, comme on avait dit avant, même pas pour être disposés après pour être pour respecter quelles que soient les règles environnementales de l'orbite. Donc aujourd'hui, si on veut aller dans ce sens que Christophe a mentionné, et que je pense que c'est dans le long terme vraiment la façon de résoudre ce problème, c'est ça veut dire changer complètement la logique, avoir des satellites qui sont modulaires, qui puissent être avoir des parties remplaçables ou réparables, etc. Donc tout ça n'existe pas aujourd'hui et c'est un peu faire le schéma inverse de ce qu'on a fait pour les appareils électriques qu'on a à la maison où en avant on arrivait quand même à faire la réparation et aujourd'hui c'est de plus en plus difficile. Il faut faire l'inverse dans les satellites. On a commencé dans cette situation où c'est le plus difficile et il faut aller vers quelque chose qui soit réparable et qui puisse qu'on puisse faire profiter au mieux de tout ce matériel énergie qu'on dépense pour les mettre en orbite.
Christophe Bonal, pour conclure, on voit quand même qu'aujourd'hui les satellites souffrent tous d'obsolescence programmée.
Ça dépend complètement lesquels. Par exemple, les Starlink de SpaceX, hein, d'Elon Musk, bon, eux, c'est ce programme. Pour Elon, ces satellites, c'est des smartphones. Hein, donc, ça vit ce que ça vit. Et puis, dès que ça a le moindre petit pépin, c'est pas grave, on le balance, on le brûle. Ils valent dans les 200 000 dollars pièce, ce qui est rien du tout à l'échelle d'un satellite. Par contre, les gros satellites, les satellites géostationnaires, non, il n'y a pas d'obsolescence programmée. Hein, ils essayent de les faire tenir le plus longtemps possible.
Et on voit en effet que Clean Space prépare des missions en effet pour aussi allonger la vie de ces engins-là et aussi des travaux chez Maya Space. Merci à vous deux. Dans quelques secondes, on retrouve la chronique avec Science. Mais pour prolonger l'écoute, je vous invite à vous tourner vers votre ouvrage, Christophe Bonal, Pollution spatiale, l'état d'urgence. Tout de suite, c'est la chronique avec Science avec Alexandre Morales.
Merci.
Peut-on observer de petits astéroïdes s'ils ne sont pas dans l'environnement proche de la Terre ? Jusqu'à présent, on arrivait facilement à repérer de très loin les gros astéroïdes de l'ordre de plusieurs kilomètres, mais pour la première fois, des chercheurs du MIT ont découvert des astéroïdes de très petite taille, environ une dizaine de mètres, dans la ceinture principale d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter, à près de 250 millions de kilomètres de notre planète. Cette découverte parue lundi dernier dans la revue Nature tient principalement à l'évolution de nos outils d'observation et de calcul. Julien De Witt est professeur de sciences planétaires au MIT et avec son collègue Artem Burdanov, il a dirigé les recherches qui ont permis ces observations.
Typiquement, ce qu'on utilise pour détecter ces astéroïdes, c'est des observations de la Terre. Donc on a des télescopes qui sont à la surface de la Terre, qui regardent le ciel et qui étudient le ciel et qui détectent ces astéroïdes dans le visible. Donc le visible, c'est la partie de la lumière que notre œil utilise. Et donc on peut détecter ces astéroïdes de par le fait qu'ils reflètent la lumière en provenance du Soleil. Et donc, s'ils sont suffisamment gros, on peut les détecter dans le visible. Pour les astéroïdes qui sont de plus en plus petits, les détecter dans le visible, c'est très difficile. Et l'idée derrière le papier qui est présenté ici, en fait, c'est d'utiliser une autre partie du spectre de la lumière, une partie qui est l'infrarouge, pour détecter ces plus petits astéroïdes. Donc, quand on va plus loin que 1000 degrés et qu'on arrive plutôt aux alentours des 0 degrés, ce qui est la température de ces astéroïdes, ils vont être très brillants à des couleurs que l'on n'arrive pas à voir avec notre œil, mais qu'on arrive à détecter avec des détecteurs comme ceux qui sont à bord du James Webb Space Telescope et MIRI en particulier.
Et ce sont des images en infrarouge du système TRAPPIST-1, situé à environ 40 années-lumière de la Terre, qui ont permis cette découverte. Ces données étaient destinées à la recherche de traces d'atmosphère sur les exoplanètes de ce système stellaire. Les chercheurs ont donc réutilisé des images préexistantes pour y faire apparaître ces astéroïdes. Et pour les observer, la technique est de rechercher des objets en mouvement. Donc pour plusieurs photos d'une même région du ciel, on devrait pouvoir observer une masse qui se déplace et reconstituer son mouvement d'image en image. Mais pour des objets qui sont très peu visibles, il faut donc adopter une autre technique développée dans les années 90 qu'on appelle le shift and stack. Le principe est simple, on empile informatiquement plusieurs images d'une région du ciel les unes sur les autres pour faire ressortir l'astéroïde. C'est exactement le principe du mode nuit de l'appareil photo de votre smartphone qui additionne les photos pour vous donner une image finale plus lumineuse. La subtilité ici est qu'il faut suivre un objet en mouvement dont on ne connaît ni la vitesse ni la direction. Et c'est à cette étape qu'une grande puissance de calcul est nécessaire puisqu'il faut tenter toutes les combinaisons possibles pour essayer de dégager la présence d'un petit astéroïde. Cette nouvelle technique appliquée aux données du James Webb Space Telescope a donné des résultats inattendus.
Il y a deux raisons pour lesquelles ces détections sont importantes. On va commencer par la première, c'est le fait que James Webb peut être utilisé pour beaucoup plus de choses que ce à quoi on s'attendait, beaucoup plus de science. Ces détections n'étaient vraiment pas attendues, donc ça c'est un gros bonus. Le deuxième aspect, c'est le fait que on a détecté beaucoup plus de petits astéroïdes que ceux à quoi on s'attendait. Donc, en gros, sur base des relations qu'on avait jusqu'aux astéroïdes d'à peu près 1 km, on s'attendait à découvrir de l'ordre de 20 à 30 petits astéroïdes. Ce qu'on a découvert ici, c'est 138, donc beaucoup plus. En comparaison, on en détecte 1 ou 2 d'à peu près 1 km.
Cette amplification du nombre de petits astéroïdes observés par rapport au nombre attendu montre qu'il s'agit d'une véritable famille dont on ignorait l'existence auparavant. Et connaître la distribution en taille de ces petits astéroïdes dans la ceinture principale est essentiel puisque ce sont eux qui peuvent facilement être déviés de leur trajectoire et devenir des météorites. C'est le nom qu'on donne aux astéroïdes qui s'écrasent sur Terre. Les grosses météorites comme celle qui a provoqué l'extinction des dinosaures sont très rares. Leur fréquence est d'une tous les 100 à 500 millions d'années. Mais les petits astéroïdes qui tombent sur Terre sont bien plus fréquents. Quasiment tous les ans, généralement ils sont sans conséquence, mais une météorite de 10 mètres de large peut avoir un impact équivalent à l'explosion d'une bombe nucléaire. Donc mieux les observer signifie mieux les connaître et surtout mieux s'en protéger.
Merci Alexandre Morales pour votre chronique, une chronique qui s'écoute à toute heure en podcast sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. Merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la science CQFD. Ève Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Noémie Eliazor, Bruno Sansini, Loïc Dutoit, Ali Ruyer-Thompson. À la réalisation, Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui, Axel Dong. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.
Question du soir, c'est tous les jours, du lundi au vendredi à 18h20 et c'est 1h30 d'analyse, de rencontres et de découvertes.
Quentin l'a fait.
Un débat d'abord, débat d'actualité avec des chercheurs et des experts. Une discussion ensuite avec un invité qui vient parler de l'actualité de la recherche, de la pensée et des idées.
Question du soir, du lundi au vendredi à 18h20 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Une récente étude de l'INSERM passe au crible les comportements sexuels des Français et des Françaises de 18 à 89 ans.
Sonia Kronlund.
Recul de l'âge des premières fois, diversité des pratiques, puissance du numérique.
Au bout d'un moment, on parle cul et il m'envoie une photo de son pantalon, quoi. Et ça, c'est très excitant, évidemment.
Dernière nouvelle du sexe, 20 ans d'évolution des sexualités. Ce sont 13 épisodes proposés par les Pieds sur Terre pour illustrer les résultats de cette vaste enquête. À écouter sur franceculture.fr et l'application Radio France.
En partenariat avec Libération.
Demain, dans la science CQFD à 16h, aujourd'hui, la plupart des